L'énigme de midi par René Pujol. Quand les employés de la banque du Paty regagnaient leur place à 2 heures sonnantes, ils apercevaient régulièrement M. Bérard, directeur général, et M. Nathan, fondé de pouvoir, déjà au travail dans leurs bureaux respectifs, dont les portes étaient toujours ouvertes à ce moment de la journée. Ce haut exemple contraignait le personnel à une ponctualité inexorable. M. Bérard était un bel homme à barbe courte, un peu froid, mais d'une courtoisie extrême. Sa compétence financière était reconnue de tous, et quelques opérations particulièrement hardies, réussies par lui, restaient légendaires. M. Nathan, noir de poil et de peau, était tout rond. Toutefois, ses fureurs avaient quelque chose d'effrayant. Il ne sévissait jamais contre personne, mais sa dactylo montrait souvent un visage baigné de larmes. M. Dupaty, propriétaire de la banque héritée de son père, était un financier mondain. Malgré sa claudication très prononcée, on le voyait à toutes les répétitions générales, à toutes les fêtes, et les maîtres d'hôtel des établissements de plaisir le connaissaient tous par son nom. Il dépensait beaucoup d'argent, mais sa fortune lui permettait de mener la grande vie sans inquiéter ses clients. Ce mardi-là, comme tous les jours d'ailleurs, M. Bérard et M. Nathan arrivèrent ensemble à 2h10. Ils traversèrent le hall complètement vide et se dirigèrent vers l'entrée de la direction dont le gardien, un amputé du bras gauche nommé Lavigrette, leur ouvrit respectueusement la porte. M. Bérard et M. Nathan habitaient la grande banlieue. Le temps leur manquant pour aller chez eux à midi, ils déjeunaient ensemble dans un des excellents restaurants qui entourent la Bourse, repas rituel, morne, au cours duquel les deux hommes n'échangeaient pas 10 paroles, lisaient leur journal ou pensaient simplement à leurs affaires. Au milieu du large couloir, les deux hommes se serrèrent distraitement la main. Cela aussi, c'était un rite auquel ils ne manquaient jamais. Soudain, les sourcils olympiens de M. Bérard se froncèrent. « Regardez donc ça, » dit-il d'une voix surprise. Ils se trouvèrent juste devant le bureau fermé de M. Dupaty. Sur le parquet ciré, M. Nathan aperçut le mince filet d'un rouge brunâtre que lui désignait M. Bérard. « Mais c'est du sang !» s'exclama-t-il. Les deux hommes restèrent un instant immobiles, puis M. Bérard se décida à tourner le loquet. La porte ayant cédé sans résistance, il passa la tête dans l'entrebâillement et se retira aussitôt, très pâle. « C'est affreux » murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda M. Nathan, figé sur place. « Le patron ?» balbutia M. Bérard. « Il faut appeler du secours. » M. Nathan pensa que seul un malheur pouvait troubler à ce point M. Bérard. Il poussa la porte entr'ouverte et, sans pénétrer dans la pièce, put se rendre compte que l'émotion du directeur était justifiée. Un homme, M. Dupaty, était étendu la face contre terre, à moins de 2 mètres de l'entrée. On ne pouvait pas douter une seconde de sa mort, car il avait le crâne presque en bouillie, et c'était de ces horribles blessures qu'un ruisselet de sang avait coulé. L'assassin s'était acharné sauvagement, et l'instrument du crime était un lourd presse-papier en bronze, représentant une tortue qui gisait à côté du cadavre. Du bout du couloir, Lavigrette assistait à la scène sans la comprendre. Il accourut car il était curieux et se trouva brusquement en présence du corps de son patron. « Monsieur Dupaty ? » fit-il. « C'est impossible !» À la profonde horreur de M. Bérard et de M. Nathan, le mutilé retourna le cadavre. Ils reconnurent sans conteste le masque livide, à peine convulsé, de M. Dupaty. « Il n'y a pas d'erreur, c'est bien lui !» reprit Lavigrette. « Ça alors, c'est extraordinaire. Pourquoi ?» questionna M. Nathan. « Parce que M. Dupaty est sorti de son bureau à 12h15 et je suis sûr qu'il n'y est pas revenu depuis. » M. Fringuet, l'inspecteur chargé de l'enquête, n'avait rien d'un sbire redoutable. C'était un petit vieux, étriqué dans sa redingote de professeur et myope comme une taupe. Tout en parlant, il étirait nerveusement sa maigre moustache et il regardait autour de lui d'un air soupçonneux comme s'il eût perpétuellement redouté une agression. « Encore un assassinat » avait-il gémi. « C'est bien fâcheux, j'ai horreur de ça. » Après avoir vaguement fureté dans le somptueux bureau de M. Dupaty, il avait demandé à passer dans une autre pièce. Dès qu'il ne fut plus en présence du cadavre, il parut soudain beaucoup plus à l'aise. « On est mieux ici » déclara-t-il en se garant dans le propre fauteuil de M. Bérard. Le directeur et M. Nathan contemplaient ce fantoche sans cacher leur déception. Il leur semblait que, pour un crime de cette importance, le ministre de l'Intérieur, ami personnel de Dupaty, aurait pu déléguer un meilleur détective. Le se fringuait, nerveux et perplexe, interrogeait la vigrette, qui, pour répondre convenablement, devait faire un effort considérable, car il nourrissait à l'égard de la police une appréhension d'honnête homme. « Parlons d'abord des portes, » dit M. Fringuet, plus assuré devant la vigrette que devant le mort. « Il y en a quatre dans cette partie de la banque, n'est-ce pas ?»«
Oui, monsieur, » répondit l'amputé. « Il y a d'abord la porte d'entrée, celle que je surveille, puis, dans chaque bureau, il y a une porte sur le hall. »
« Bon. L'assassin donc puisse s'introduire par une de ces trois dernières portes. »«
Non, monsieur, elles étaient et sont en cours verrouillées à l'intérieur. » M. Dupatil ne touchait que rarement à la sienne.
Quant à M. Bérard et M. Nathan, ils n'ouvrent jamais la leur qu'à 2 heures.
« C'est exact, » confirma le directeur. « Le matin est consacré au courrier et au conseil de direction. C'est l'après-midi seulement que nous avons contact avec le personnel et les visiteurs. »
« Et puis, » compléta M. Nathan, « même si les verrous n'étaient pas mis, il faudrait crocheter les serrures de sûreté. Les portes sur le hall sont toujours fermées à clé car elles n'ont pas de loquet. »
M. Fringuet s'arracha un poil de moustache et attaqua carrément la vigrette.
« Reste la porte que vous gardez, » fit-il. « C'est forcément par celle-là que le criminel est entré et sorti. »«
Non, monsieur, »
répliqua la vigrette en recouvrant son énergie. « Aujourd'hui, comme d'habitude, après le départ du dernier de ces messieurs, j'ai fermé à double tour et je n'ai pas bougé de mon poste. De midi à 2 heures, personne n'est entré, personne n'est sorti. »
Il était si évident qu'il ne mentait pas que l'hésitant M. Fringuet jugea inutile d'insister.
« Alors, peut-être les fenêtres, » émit-il timidement. Cette fois, M. Bérard intervint.
« Ne vous attardez pas à cette hypothèse, car les fenêtres sont toutes munies de solides barreaux de fer.
« J'ai vu, dit M. Fringuet en s'agitant sur son siège comme sur un grill.
« C'est fou comme tout cela se complique. Comment voulez-vous que je découvre l'assassin si l'on ne me donne aucun renseignement ?»«
C'est à vous d'en donner, » s'écria M. Nathan, dont la patience n'était pas la vertu principale. « Faites votre métier, que diable !»
Une grimace douloureuse crispa les traits du policier.
« Si vous croyez que c'est facile, vous prétendez que l'assassin n'a pu entrer. Pourtant, le crime a bien été commis. Plus fort, le gardien déclare que Dupatier est sorti de son bureau à 12h15 et n'a pas reparu depuis.
« Parfaitement, » souligna la vigrette. « M. Bérard est parti le premier, M. Nathan l'a suivi 2 minutes après. »«
C'est le contraire, » précisa M. Bérard. « Je suis sorti le second et j'ai rejoint M. Nathan devant la porte, comme d'habitude. »
La vigrette continua.
Un petit moment plus tard, M. Dupatier est sorti à son tour. Il m'a dit bonjour, comme d'habitude, ce qui prouve que je ne rêve pas, et j'ai bouclé la porte dont la clé ne m'a pas quitté.
Et c'était bien lui.
Un homme qui boite et qui est toujours un foulard blanc n'est pas malin à reconnaître.
Les doigts de M. Fringuet craquaient comme du bois sec.
Étrange, étrange, dit-il à voix basse, comme pour lui. Ni le mort, ni l'assassin n'étaient à l'intérieur, et pourtant il y a un cadavre et incontestablement un meurtrier. En outre, quel est le mobile du crime ?
On n'a rien volé, hein ?
Je ne crois pas, répondit M. Bérard. On n'a pas touché au coffre-fort particulier de M. Dupatie, qui contenait plusieurs centaines de 1000 francs. On n'a pas touché non plus au portefeuille, dans lequel nous avons retrouvé 27 000 francs. Quant aux bijoux, M. Dupatie n'en portait jamais.
Il faut donc croire à une vengeance, conclut M. Fringuet avec une fausse assurance.
Une vengeance ? C'est absurde ! Dit M. Bérard à M. Nathan.
M. Fringuet feignit de ne pas avoir entendu cette réflexion désobligeante.
Le seul homme qu'on puisse logiquement soupçonner, fit-il, c'est le gardien.
Quoi ?
Rugit la vigrette, cramoisie d'indignation. Qu'est-ce que vous osez raconter ?
Rien, rien,
riposta M. Fringuet en se reculant prudemment. Je ne vous accuse pas, mon brave. Je sais depuis longtemps que la logique n'a souvent rien à voir avec la vérité. C'est une simple supposition que je fais. « J'ai le temps de vous inculper, s'il le faut. »«
M'arrêter, moi ?»
vociféra le mutilé. Le frêle policier battait en retraite.
« On verra, on verra. »«
Je me retire, messieurs. »« Inutile d'attendre le médecin légiste. »« Je vais m'enfermer chez moi, car j'ai besoin de réfléchir dans le calme. »« Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour l'arrestation du meurtrier. »
M. Nathan ne put s'empêcher de ricaner.
« Vraiment, vous l'arrêterez demain. »«
Mais je l'espère, » dit M. Fringuet, sans la moindre conviction.
Et quand l'inspecteur fut parti, la vigrette résuma l'opinion de ses chefs. « S'il n'y a que cet Olibrus pour mettre la main au collet du bandit qui a fait le coup, on peut s'armer de patience. » La terrible mort de Dupatie ne pouvait que bouleverser la vie de la banque. Les journaux du soir firent grand bruit autour de l'assassinat, de sorte que le lendemain matin,
les guichets furent assaillis par des clients anxieux du sort de leur argent. Il en résulta une telle agitation que M. Bérard et M. Nathan n'eurent un peu de répit qu'à l'heure du déjeuner. Ils expédièrent leur repas dans le minimum de temps, car il leur tardait de revoir le falot policier. Ce dernier arriva à l'heure dite, flanqué de deux grands gaillards moustachus dont la profession n'était pas difficile à deviner. « Eh bien, demanda M. Nathan d'un ton narquois, vous tenez l'assassin ?»«
Pas encore, répondit M. Fringuet, mais son arrestation est imminente. »«
Qui est-ce ? » fit avec empressement la Maigrette, entrée sans permission dans le bureau de M. Bérard où se déroulait la scène. M. Fringuet ébaucha un timide sourire. « Ce n'est probablement pas vous. »«
Pourquoi probablement ?»
protesta le mutilé.
« Parce qu'on n'est jamais sûr de rien, »
reprit M. Fringuet.
« J'ai amené ces deux messieurs pour me protéger, si besoin est, car l'homme qui a tué Dupaty pourrait en vouloir à ma précieuse existence. »«
Où est l'assassin ?» coupa M. Bérard. Le policier boutonnait sa redingote d'une main qui tremblait.
« Pas très loin, je suppose. »«
Vous connaissez son nom ?»«
N'allons pas si vite, » dit M. Fringuet. « Pour commencer, permettez-moi de vous poser une question. Qui savait ici que Dupaty avait encaissé hier matin 600 000 francs à la Lloyd Bank ?»
Il y eut un silence au cours duquel M. Bérard et M. Nathan se regardèrent avec étonnement.
« Je l'ignorais, » dit enfin le premier.
« Moi aussi, » dit le second.
« Et moi de même, » ajouta naïvement la Maigrette.
M. Fringuet expliqua avec un sourire malicieux.
« L'assassin, lui, était au courant.
Feu Dupaty devait faire avec ses 600 000 francs, appartenant à un de ses clients britanniques, une opération discrète et lucrative. » Il a reçu l'ordre par le courrier de 9 heures. À 10h30, il encaissait le chèque. Il a porté l'argent ici, où il arrivait vers 11 heures, et à 12h05 exactement, il était assassiné.
« Je l'ai vu à 12h10, »
interrompit la Maigrette. Mais le policier secoua la tête. « Laissez-moi finir le récit du crime. »
Il m'a été facile de savoir par téléphone que Dupaty avait touché cette grosse somme, qu'il n'a pas été retrouvé sur son cadavre et que l'assassin s'est approprié.
Ceci établi, je me suis souvenu de l'adage latin « Is fecit qui prodest » et j'ai cherché à qui le crime avait pu profiter. Ses interlocuteurs l'écoutaient avec une curiosité croissante et les observaient à petits coups goguenards en jouissant de son importance personnelle. « Le criminel, poursuivit-il, a commis la lourde faute de prendre trop de précautions. »
Je ne me suis pas attardé à l'examen des lieux, car le truc des portes closes, infranchissables, me persuadait qu'aucune trace n'existait. C'est en méditant à tête reposée que j'ai reconstitué le crime, et voici comment il s'est déroulé.
Dupaty s'installe dans son bureau et informe quelqu'un de son passage à la Lloyd Bank.
« Le patron n'a vu que Bérard et moi, »
fit M. Nathan. M. Fringuet s'inclina gracieusement.
« Monsieur, je ne fais pas de personnalité. Pour la commodité de mon exposé, appelons le confident Durand. »
Ce Durand, sachant que Dupaty a dans ses poches 600 billets de 1 000 francs, songe à s'en emparer. Il attend jusqu'à midi, heure du départ général. Il tire doucement les verrous d'une des portes donnant sur le hall. Il sort le premier, n'ayant soin de se montrer ostensiblement par la sortie normale que surveille M. Lavigrette. Au lieu d'aller dehors, il se précipite dans le hall, qui est déjà vide, car les employés ne sont jamais en retard pour aller déjeuner. Durand, avec sa clé, ouvre la porte, dont il a tiré les verrous intérieurs. Il rentre et repousse soigneusement les 10 verrous. Le voilà donc dans la place, alors qu'on le croit dans la rue. Sans perdre une seconde, il s'élance chez ce pauvre Dupaty, qui, le connaissant fort bien, n'a aucune raison de se méfier de lui. Durand s'empare du presse-papier et tue son patron sans faire de bruit. Son forfait consommé, il s'empare des 600 000 francs, mais laisse dans le portefeuille de sa victime assez d'argent pour qu'on ne suppose pas au premier abord que le vol est le mobile du crime. Puis, il cache son chapeau sous son pardessus, se coiffe du feutre de Dupaty, s'enveloppe du foulard caractéristique de celui-ci, car le banquier avait toujours un foulard blanc, relève son col et s'en va hardiment, non sans honorer la Maigrette d'un salut familier. La Maigrette n'a qu'une idée, fermer la porte et faire sa courte sieste quotidienne sur la banquette du hall. Il ne scrute pas la silhouette de celui qui, à ses yeux, ne peut être que Dupaty. Il ne voit que la boiterie et le foulard. Il tourne ses clés et s'endort du sommeil du juste sans se douter qu'il garde un cadavre. Durand, qui connaît admirablement les êtres, fourre le foulard blanc dans sa poche, accroche le chapeau de Dupaty à une patère, remet le sien et rejoint tranquillement l'ami qui l'attend sur le trottoir pour aller déjeuner.
Monsieur Nathan sursauta.
« Qu'est-ce que vous dites? Vous entendez Bérard? Cet homme nous accuse !»
Monsieur Bérard haussa les épaules.
« J'entends, en effet, mais vous avez tort de vous émouvoir. Nous n'avons pas à nous indigner des suppositions grotesques de Monsieur Fringuet. »
Monsieur Fringuet s'adressa à Monsieur Nathan avec la plus exquise politesse.
« Monsieur Bérard a raison. Vous n'avez pas à vous inquiéter, car vous êtes innocent.
Le coupable, ce n'est pas vous, c'est lui. »
Et soudain, solennel, « Adrien Bérard, au nom de la loi, je vous arrête. »
Les deux agents de la sûreté n'eurent pas le temps de bouger.
Monsieur Bérard fit un saut en arrière pour fouiller dans la poche de son veston d'où il tira un Browning. Prompt comme la foudre, abandonnant en un clin d'œil sa pusillanimité, Monsieur Fringuet se rua en criant « Empêchez-le de se suicider !»
Monsieur Bérard avait déjà le canon sur la tempe, mais Monsieur Fringuet fit dévier l'arme et la balle troua le plafond.
La lutte semblait tout à fait disproportionnée entre le robuste Monsieur Bérard et le grêle vieillard qu'était Monsieur Fringuet. Pourtant, quand les agents surmontèrent leur stupeur, Monsieur Bérard, maîtrisé par une poigne de fer, à demi étranglé, gisait sur le plancher. Et à la place du timide Monsieur Fringuet, il y avait maintenant un homme d'environ 35 ans, débarrassé de son lorgnon et de sa moustache postiche.
L'affaire est terminée, annonça-t-il avec un bon sourire. Le suicide de Bérard n'était pas moral. C'est pour cela que je l'ai empêché. Les assassins de son espèce doivent expier au bagne. Emmenez-le.
Monsieur Nathan était tellement ahuri par le drame rapide, cinématographique, qui venait de se dérouler sous les yeux, qu'il n'eut pas une réaction quand les agents entraînèrent le directeur, qui sanglotait comme un enfant.
Ce malheureux est un joueur, dit Monsieur Fringuet, en réjustant sa redingote élimée. Il a tué pour qu'on ne sache pas qu'il avait volé. Il ne mérite guère la pitié, mais je le plains quand même.
La vigrette considérait le policier avec une admiration éperdue.
Mais comment avez-vous compris que c'était lui l'assassin?
C'est lui-même qui me l'a dit,
répondit M. Fringuet.
Lui? S'exclama M. Nathan.
Quand ça?
Hier, devant vous. Je ne saisis pas.
La vigrette a fait ainsi sa déposition.
M. Bérard est parti le premier.
M. Nathan l'a suivi 2 minutes après.
Aussitôt, Bérard s'est empressé de rectifier. « Je suis sorti le second, et j'ai rejoint M. Nathan devant la porte, comme d'habitude. » Cette phrase m'a frappé. C'est elle qui m'a permis de confondre le coupable. J'ai pris des renseignements sur son compte, et je n'ai plus douté quand j'ai su qu'il fréquentait les tripots.
La vigrette déclara enthousiaste. « Vous êtes un as. »
À quoi M. Fringuet répondit avec un mélancolique sourire. « J'ai une petite réputation, mais je regrette de la devoir à des canailles, et souvent à des morts innocents. »
Ainsi s'achève l'énigme de midi par René Pujol.